Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les grandes gueules vous saluent, bonjour à tous, bienvenue sur RMC et RMC Story, toujours très heureux de vous retrouver en direct pour ces 3 heures de discussion, 3 heures de débat. Vous connaissez le mode d'emploi pour intervenir et être grande gueule avec nous. C'est le 32-16. Aujourd'hui, dans les GG, nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. Bonjour, ma chère Elina.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Bonjour, Mehdi.
Bonjour à tout le monde.
Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur en Seine-Saint-Denis. Bonjour, mon cher Étienne.
Chers amis, bonjour.
Camarade aujourd'hui.
Chers amis, bonjour. Ça, c'était le bonjour illustre de Lucien Jeunesse. Absolument. Qui ouvrait le jeu des 1000 francs. Ça, c'est quelque... Mais je crois que même les... Est-ce que les boomers s'en souviennent aussi? Je suis même pas sûr.
Est-ce que lui?
Oui, tu vois. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? À midi moins 25, nous serons avec un visage devenu familier des téléspectateurs. C'est celui d'Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers. Il viendra reparler de ces feux qui ont duré tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et surtout aujourd'hui, de comment on peut donner plus de moyens aux pompiers. De quoi ont-ils besoin? Il sera avec nous à midi moins 25. À 10h, l'UNEF veut une allocation de 1 100 € par mois pour les étudiants, de manière à ce qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit non? On en discute de toutes les manières avec vous, donc à 10h. Et puis, notre premier sujet de discussion va nous emmener du côté de Colmar, avec la toile de fond de cet homme de 27 ans qui est mort. C'est encore une histoire de rodéo. C'est un jeune Afghan de 27 ans qui est mort après avoir été blessé par balle. En fait, il protestait contre une personne qui passait à côté de lui en scooter ou à moto et qui faisait du bruit. Écoutez l'un des amis proches de la victime.
On est malheureux pour lui parce que depuis hier, quand j'ai attendu cette nouvelle, je suis là, je ne suis pas retourné de chez moi et on est là tous pour lui. On a besoin de justice pour le monsieur Ahmad Zahir Qayoum.
Voilà, on a besoin de justice. Cet homme de 27 ans faisait partie de la communauté afghane. Pas de casier, pas de problème. Il travaillait chez PSA, salarié chez Peugeot du côté de Colmar, dans l'est de la France. Il a été blessé par balle. En fait, il était au téléphone avec de la famille ou avec des amis. À côté de lui, il allait rejoindre un petit groupe d'amis aussi qui faisait un barbecue. Il était au téléphone, c'était un peu mis à l'écart, d'après les éléments qui sont donnés par la police. Et puis devant lui, passait un type à moto qui faisait, vous savez, les roues arrière, qui faisait du boucan, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, peut-être un peu énervé, un peu agacé, il lui a dit « Stop !» Voilà, ça suffit, je suis au téléphone, basta. Peut-être que le ton est un peu monté. Toujours est-il que celui qui était sur la moto, sur le scooter, il est parti, il est revenu à 7, mais lui, il avait une arme, et il a dégainé, il a tiré. Voilà, et il l'a tué.
Chicago.
Alors c'est pour ça que je vous pose la question. Au moment où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, intensifie les contrôles, au moment où les policiers aussi appellent à de plus en plus témoigner pour ces rodéos en disant « il faut que nous puissions identifier les personnes, puissions savoir où elles rangent les motos », là on a l'impression que... Alors Mehdi disait « c'est Chicago ». Oui, c'est la loi de la jungle. Est-ce que c'est cette loi de la jungle aujourd'hui, ça nous fout la trouille, ça nous fait peur? 32-16 pour en parler avec les gilles, avec les grandes gueules.
Là,
Étienne.
En l'occurrence, je trouve que c'est un mauvais exemple parce que le gars aurait pu être en bécane, en voiture, à pied, qu'il s'accroche avec quelqu'un. Dans la vie, on s'engueule toujours avec des gens. On revient pas à 7 avec un flingue. Je veux dire que le problème, c'est pas en l'occurrence, c'est pas le rodéo.
C'est le point de départ.
Ça aurait pu être une clope, je sais pas quoi. Moi, ça aurait pu être des insultes, n'importe quoi. Là, c'est le gars lui dit arrête de faire du bruit. Bon voilà, on fera qu'on reconstitue le truc. Mais par contre, ce qui est complètement dingue, c'est de revenir parce qu'on a été vexé. Par ce jeune garçon là. On a été vexé, donc on revient avec des copains en plus
armé
et qu'on flingue le gars. Là, je veux dire, on passe dans le niveau supérieur. C'est un truc de dingo, quoi. C'est même pas Chicago, parce que Chicago, c'était des gangsters. Là, on en a l'impression.
Oui, c'était entre bandes.
C'est pas des gangsters. C'est-à-dire, c'est un citoyen, qui et au lieu de s'engueuler, de se monter dans les tours et même de s'insulter, tout ce qu'on veut, comme ça se fait sur la route toute la journée, le gars revient armé. Donc, ça veut dire que, le gars a été complètement vexé et que sa réaction, au lieu de fumer un pétard, c'est de revenir et de buter hein, le type qui l'a vexé. Donc oui, on est sur de la grande maladie mentale.
C'est pas bon, toi tu maladie mentale.
Bah, je comprends ce que tu veux dire. Qui t'a vexé,
oui, c'est pas ça. On est sur quelqu'un qui dit. Je suis sur mon territoire.
L'autre aussi.
Il dit simplement, je suis en train de téléphoner.
Oui, l'autre aussi. Là. Enfin, je veux dire,
est-ce que je peux simplement téléphoner normalement? Donc,
ils habitent là, ils font un barbecue sur le.
Il fait un petit truc de voisinage. Ouais. Tandis que l'autre, il passe.
Territoire en France.
Non, mais la manière, si tu veux te dire, t'as pas à me parler comme ça. Je suis là. Non, mais ça veut dire, je suis là, je fais ce que je veux.
Il a été vexé.
Ça m'appartient.
Il a été vexé.
Elina Dumont.
Ah ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'était. Que là, j'ai l'impression que on perd complètement le contrôle de tous ces mecs. Je sais pas quel âge il a, ce mec qui
Le tireur, il est en fuite, hein, toute façon.
Oui, le tireur. Mais c'est cette copain là, il est quelque part. Il y a bien des gens qui le savent.
Ah bah justement, ça va être compliqué de recueillir tous les témoignages aussi maintenant.
M'être beaucoup renseigné, ils pourraient mettre une plateforme comme ils font à Pontoise. Il y a peut-être quelqu'un qui va quand même avoir ça sur la conscience et dire non, je peux pas.
Mais c'est clair.
Mais j'espère.
Mais oui.
Et moi, par contre,
Enfin, tu espères. Pas sûr, c'est ce que disent les policiers aujourd'hui. C'est vraiment la collecte des témoignages qui est le plus compliqué.
Oui, mais sur
parce
une
que
plateforme.
Derrière, si tu veux, il y a des chances, effectivement, qu'ils le retrouvent. Mais derrière, c'est la pression qui est exercée sur les familles, c'est la pression qui est exercée sur les voisins. Ça, c'est une réalité aujourd'hui.
Ouais. Alain.
Ils retrouvent à chaque fois.
Et pour moi, là, c'est même pas une histoire de territoire. Parce que les histoires de territoire telles qu'on en parle dans les cités, c'est vraiment, je dis n'importe quoi, la cité de Stein F contre la cité D à Stein. Mais là, c'est même pas ça, c'est comme dit Étienne, c'est un mec, mais pour une cigarette, il y en a plein qui ont reçu des coups de couteau à Paris.
Des adultes en plus.
Non, mais moi, ce qui me pose problème, c'est je me dis, mais pour arriver à faire des monstres pareils, mais dans quelle violence ils ont été éduqués.
Ils n'ont pas de vie.
Parce que, excuse-moi, moi je veux bien croire qu'on s'engueule pour une voiture, les gens, les automobilistes s'engueulent. Mais là, il repart, il va chercher ses copains.
Délibéré.
J'en ai vu sortir sur des engueulades de bagnole avec la croix pour changer les roues là. Vite se tirer.
Mais
c'est sur le coup de la colère que le gars là, il rentre chez lui, il va chercher ses
potes. Juste un truc. Le pire dans l'histoire, d'après tout ce que j'ai lu, Alain, c'est toi le journaliste avant tout. D'après ce que j'ai lu, c'est pas celui qui faisait du rodéo qui a tiré. C'est l'autre.
Non, c'est celui qui faisait le rodéo qui a tiré.
Ah bah c'est pas écrit la même chose partout
Mehdi
dans
Ghezard.
La presse alors.
Mehdi Ghezard.
J'espère qu'il n'y aura pas de, il y aura aucune tolérance pour ce genre de fait. J'espère que le type ne va pas s'en sortir avec mort sans intention de la donner. Tu sais les trucs de juridique où tu peux. Tu connais très bien la justice comme moi pour ce genre de délit où il y a plein de choses où ils peuvent se cacher derrière. Et vraiment, j'espère qu'il n'y aura aucune tolérance derrière ce crime, parce que c'est un crime, il n'y a pas d'autre mot. Le type s'est bagarré avec, enfin, il s'est disputé d'après les premiers éléments de l'enquête. Il est parti chez lui, il a récupéré une arme. Donc le type, en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, quand tu te bagarres, tu redescends, tu te calmes, tu prends un peu de recul. Non, lui, il est parti de récupérer des copains. Il a récupéré une arme, il est revenu, il a tiré dessus. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Vexé.
Tu vas pas tuer quelqu'un parce que t'es vexé. T'as un problème quelque part. T'as un problème psychologique. Moi, le problème aussi qui me dérange, c'est que je sais pas si vous avez vu depuis hier dans toutes les chaînes de télévision, on dit un jeune Afghan a été tué. On dit pas un citoyen de Colmar a été tué. Et ça, c'est problématique aussi. C'est comme si on voulait, il faut savoir se dire les choses. Ils voulaient mettre ça comme si c'était dans un truc de quartier de non-assimilation. Partie de la population. Et c'est pas normal. Non, c'est un citoyen. Voilà, guerre de clan. Non, c'est un citoyen qui est en train de bouffer un barbecue, en train de téléphoner, qui s'est fait abattre. d'une façon de dégueulasse.
D'ailleurs, dans la manif, il y a beaucoup d'Afghans et pas beaucoup de citoyens non-Afghans qui soutiennent.
Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est la marche blanche qui était là.
Je dis ça parce que bizarrement, sur un citoyen qui se fait buter comme ça dans un quartier, il pourrait y avoir une mobilisation générale de tous les habitants du quartier et pas de la communauté afghane qui a l'air très présente sur ce quartier de Colmar. Peut-être parce que
quartier de Colmar, je pense que c'est le quartier de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un quartier dans lequel la police et la mairie étaient en train de mettre le paquet, justement, au niveau de ce qu'on appelle, tu sais, aujourd'hui, les quartiers dits de reconquête, sorte, si tu veux, que la vie reprenne normalement, que les habitants ne soient pas importunés et que toutes les nuisances.
Beaucoup de gens travaillent, beaucoup de migrants là-bas travaillent chez Peugeot, précisément, parce que c'est
un secteur d'activité qui recrute énormément,
recrute beaucoup de migrants parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre. Hein. Donc il y a énormément d'Afghans, de Syriens, etc. qui travaillent là.
On a Gabriel qui veut nous en parler, qui veut en discuter avec nous, qui nous appelle au 3216. Bonjour Gabriel.
Oui, bonjour à vous les grandes gueules.
Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Gabriel?
Alors moi je suis fonctionnaire de police.
Et on se dit quand même, tout ça pour une altercation à cause d'un rodéo, d'une nuisance. On se fait tuer aujourd'hui, Gabriel.
Mais c'est pas neuf en fait. Enfin, vous découvrez, mais c'est pas neuf en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois on joue les vierges effarouchées à chaque fois qu'un truc comme ça se passe, mais c'est de pire en pire en fait. Là, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit là, ce genre de violence, malheureusement, il y en a tous les jours partout en France. Partout. C'est pas. Là, c'est dramatique parce que effectivement, la personne est revenue avec une arme à feu. Mais habituellement, ça se règle à coups de couteau. Et on accentue le truc, effectivement. J'entendais Mehdi qui expliquait que effectivement, la façon dont en plus était traitée l'information, un jeune Afghan, machin, tout ça. Et c'est une façon de stigmatiser, mais ça, c'est le jeu des médias. Vous savez très bien.
Non, là, c'était juste. C'est pas pour stigmatiser, Gabriel, c'est parce que c'est simplement factuel. Voilà.
Oui, bien sûr, ouais. Mais le choix des mots est toujours important. Les journalistes savent toujours utiliser quel mot. Mais bon, au-delà de ça, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais là, dans ce qui se passe là, là, par exemple, on parle de refus d'obtempérer, et là, je rejoins Étienne. Peu importe, en fait. Là, c'est pas le refus d'obtempérer. On parle du refus d'obtempérer parce qu'effectivement, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de cas et il y a eu beaucoup d'accidents dramatiques. Mais là, en soi, peu importe le refus d'obtempérer. Là, ce qui s'est passé, c'est ni plus ni moins la même chose qu'on peut avoir dans Paris ou dans le RER où deux bandes vont se croiser, vont échanger un regard, ça va partir et parce qu'ils sont pas du même quartier, ça va s'étriper. C'est exactement la même chose.
Gabriel, est-ce que là, à votre avis, c'est une histoire de bande, de communauté rivale?
Je ne sais pas, je ne connais pas le quartier de Colmar, il faudrait voir en fait. Je vais émettre une hypothèse, hein, j'en sais rien. Comme vous le savez, je pense, quand vous êtes migrant, forcément, vous n'avez pas forcément la possibilité d'occuper un poste qui vous permet d'avoir un salaire vous permettant de vous loger décemment. Donc je pense que ces gens-là, déjà, la communauté afghane, peut-être de Colmar, a certainement, très certainement, été logée quand elle est arrivée. Très certainement dans des habitations HLM. Oui. Vous aviez déjà des gens. Alors, est-ce que derrière, il n'y a pas un fond de rivalité communautariste? J'en sais rien. Je ne le mettrai pas en avant. Maintenant, c'est possible. Ça peut être une hypothèse aussi. Le fait qu'ils étaient, eux, rassemblés en train de faire un barbecue, derrière, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres histoires entre les différentes communautés? Enfin, c'est très complexe. Là, on dépasse le cadre, juste de cet événement. En revanche, ce qui est dramatique, c'est effectivement la façon dont ça s'est fait. Je rejoins Mehdi. À défaut, l'incrimination devrait être l'assassinat, puisque la personne prend le
mandat. Il y a une préméditation, à minima,
l'homicide. Je vois pas comment on peut qualifier votre...
Peut-être même la préméditation.
Ils vont essayer de dire après, non, mais c'est sans intention de la donner, mort,
Quand vous rentrez chez vous, pour récupérer
une arme. Voilà, pour récupérer une arme et pour
avoir la préméditation.
Voilà.
On est d'accord.
Vous êtes dans la...
On est d'accord.
D'autant plus que cet homme armé et très courageux, visiblement, est revenu avec cette pote.
Alors là, on en revient à ce que je disais.
L'association de malfaiteurs.
Ce qui se passe dans les quartiers, en fait. Aujourd'hui, de nombreux quartiers en France résonnent comme ça. C'est-à-dire que on dépend le territoire, on est une meute et on ne vit pas.
Ils auraient 16 ans, je dirais oui, peut-être il y a une histoire, mais là, c'est des hommes. Hein. Enfin, en tout cas, celui qui est mort, c'est un homme. Hein. C'est un homme.
Oui, 27 ans,
un travailleur.
Le tireur, à quel âge?
Ah ça, on n'en sait rien.
C'est il est recherché. Non, mais effectivement, il se peut qu'il soit beaucoup plus jeune aussi, Gabriel Zavazan. Mais ça s'inscrit aujourd'hui dans ce contexte qui est compliqué parce que la semaine dernière, il y a 10 jours, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et on entendait les policiers aussi demander à la population, justement, parce qu'on arrive à une espèce d'apaisement dans ces quartiers, de témoigner. Vous voyez, d'aider la police, parce que là, la toile de fond, c'est le rodéo, c'est-à-dire que c'est toute la journée, c'est le rodéo urbain, enfin, c'est les figures, ça fait du bruit, etc. Donc là, si on risque sa vie, pour témoigner ou simplement pour faire une remarque à quelqu'un qui vous importune, ça devient compliqué, quoi. Vous voyez, Gabriel?
Ah, mais là, on est d'accord, mais de toute façon, moi, j'ai entendu, les appels de mon ministre, mais j'attends rien de la population de ces quartiers qui, malheureusement, vivent sous la peur, en fait. Ils ne feront rien, parce que derrière, s'il y en a un qui parle, eh ben, en fait, c'est la bande derrière qui va se venger de celui qui aura été sanctionné.
C'est l'omerta.
Voilà, c'est ça. De toute façon.
C'est ça.
C'est mon avis personnel. Ces quartiers sont définitivement perdus. C'est soit on bascule sur une politique répressive forte avec une tolérance zéro, où effectivement on met des policiers et on fait ce qu'il faut pour récupérer ces quartiers. C'est-à-dire que derrière, alors c'est pas que notre rôle à nous, c'est-à-dire que derrière il va falloir resocialiser ces quartiers, remettre des associations, reprendre en main les gamins, les accompagner, les empêcher de partir à la dérive, faire en sorte de désenclaver ces quartiers, parce que quand vous arrivez d'un quartier, que vous cherchez un job, vous savez très bien que vous n'êtes pas traité de la même manière. Quand bien même vous faites une grande école, mais si vous habitez au 4000, vous n'aurez pas la même chose que si vous habitez à Issy-les-Moulineaux.
Oui, mais c'est pas une raison de s'en tuer.
Non, mais c'est intéressant l'histoire, là, parce que vous voyez, par exemple, les 4000, ils ont été détruits, donc pour au plus, ouais, la Courneuve. Donc les 4000, il y a plus de 2000 logements qui ont été détruits. Le reste a été réhabilité. Aujourd'hui, par exemple, les 4000, c'est plus du tout un sujet. C'était le grand sujet il y a 20 ans. Le quartier a été pris en compte par la politique de la ville avec beaucoup de destruction. C'est-à-dire, on fait vivre 20 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite ville sur un espace qui fait 1 km². Oui, c'est compliqué. Maintenant que le quartier a été détruit pour part, reconstruit, les 4000 ne sont pas un problème aujourd'hui. On ne parle plus des 4000.
Oui, parce qu'on a fait tomber les bars, on a fait tomber les bars, la ghettoisation.
On a reconstruit des petits trucs.
C'est ce qu'on est en train de faire dans ce coin de Colmar,
partout,
du côté du quartier.
Parce que tout le monde s'est aperçu que c'est invivable.
Mais Gabriel, ça veut dire quand même, dans la tête de celui qui va, c'est presque l'impunité, c'est la toute-puissance, c'est la violence, ou c'est de se dire on parle pas comme ça, je vais donner un signal. Les ceux qui m'importunent, on les bute, on les met au tapis.
Non, le problème, c'est que on n'est pas, ils sont pas dans le même, dans le même moule. Je veux dire éducatif.
Les codes sont pas du tout les mêmes.
Ouais, mais oui. Les codes sont pas du tout les mêmes.
Ouais, enfin,
ils grandissent dans
la violence.
Ce que j'ai constaté, c'est que c'est plutôt qu'ils sont dans une imitation d'un mode très tu parlais de Chicago tout à l'heure, ils sont dans une espèce d'imitation,
c'est-à-dire que pour américain,
c'est-à-dire
mode américain,
c'est-à-dire on voit aux États-Unis des trucs où pour 250 000 $ on va retenir un mec dans une cave en lui disant tu vas me filer 250 000 $ parce que tu me les dois ou je te coupe les doigts, et ici pour 8,50 € on va faire la même chose, c'est-à-dire que ils sont dans une, il y a une espèce d'assimilation, c'est des tout petits trafiquants de merde, et ils sont une espèce d'assimilation à des mecs de Chicago des années 20. Donc c'est très étrange, parce qu'il y a une espèce d'imitation complètement décalée,
nous, ce qu'on constate sur le terrain, et enfin en tout cas moi ce que je constate, c'est qu'en matière de délinquants, ça fait 20 ans maintenant que j'exerce ce métier, on a eu une augmentation en tout cas très importante en termes de violence par rapport au jeune âge. C'est-à-dire que les générations qui arrivent sont violentes que les précédentes à chaque fois.
C'est
ça. Franchissent un pas supplémentaire.
Gabriel, il y a 20 ans, j'avais 17 ans, 18 ans. Il y a 20 ans, on n'entendait pas ça à toute la journée à la radio, à la télé.
Bien sûr que non.
On n'entendait pas des gars qui se faisaient
tirer dessus. Mais il n'y avait pas non plus de chaîne d'infos.
Oui, non, mais excuse-moi, mais t'avais le JT, t'avais le JT de
Madère,
t'avais le JT de...
Mais tu vois,
tu n'entendais pas ça comme ça en permanence.
Non, mais tu vois ce que dit Gabriel, il dit ça a toujours existé, mais pas à ce point-là.
Non, par contre, ce que dit Gabriel, il y a un rajeunissement, mais je peux vous dire qu'il y a 30 ans, il y avait de l'héroïne partout, et on se tuait tous les jours pour de l'héroïne. Et il y avait des OD, y avait des overdoses tous les matins.
Mais tu as raison, il y avait du trafic de drogue.
Énormément de violence.
Oui, sauf que
partout.
Et je remercie Gabriel de son témoignage. Merci, sauf que ce que nous dit Gabriel aujourd'hui,
c'est la jeunesse.
Et puis c'est pour un regard, c'est pour une cigarette, c'est simple, c'est pour un téléphone portable. D'accord. Et c'est 200 francs. Un dernier mot avant
la critique qu'on peut faire quand même à ce quinquennat, puisqu'on en est au deuxième, c'est que ces rodéos existent depuis des années chaque été.
Pas qu'en ville, hein.
Oui, pas qu'en ville, même dans les campagnes.
Ben oui.
Et pourquoi on n'a pas agi dès le départ?
Justement, puisque tu dis ça, peut-être que pour calmer les esprits dans cette histoire, il faut maintenant trouver des palliatifs. C'est Stéphane Gomez, le maire de Vaux-en-Velin, qui sera avec nous dans un instant. Lui, il a donné des terrains à l'extérieur de la ville pour que justement ceux qui font les rodéos et qui étaient ceux qui importunent puissent aller à l'extérieur de la ville et que ça apaise. Justement, à l'intérieur des cités. Il va nous en parler et nous dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé du côté de Colmar. A tout de suite avec vous au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Étienne Liebig, avec Elina Dumont, avec Mehdi Guézard. Elina qui est intervenante sociale, Mehdi qui est chef d'entreprise, Étienne qui est éducateur. On parle de ce qui s'est passé à Colmar avec ce jeune de 27 ans qui est décédé hier. Il a été touché par balle, ça s'est passé dimanche, le contexte, il est au téléphone. Et puis il y a quelqu'un devant lui qui n'arrête pas de passer avec un scooter, une moto et de faire ce qu'on appelle du rodéo, vous savez, des roues arrière, après de faire du bruit. Il le stoppe, il lui fait la remarque. La personne part et revient accompagnée de copains et ça tire. Enfin, on lui tire dessus. Alors, il y a une première version qui dit que c'est celui qui était sur le scooter qui a tiré. Il y a une autre version plus sujette à caution qui dit qu'il n'était peut-être pas le tireur. Mais enfin, pour le moment, d'après les policiers, c'est bien celui qui était sur le scooter qui était le tireur. Toujours est-il qu'il est en fuite et ce jeune homme de 27 ans est mort. Nous sommes avec Stéphane Gomez qui est le maire, adjoint au maire à Vaux-en-Velin. Bonjour Stéphane Gomez.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qui s'est passé à Colmar, puisque vous êtes vous aussi confronté à cette tension, à cette violence, à cause des rodéos? Qu'en pensez-vous, monsieur Gomez?
Alors, naturellement, j'ai d'abord une pensée pour la victime, pour l'ensemble des victimes, puisque ces rodéos créent partout en France, même au-delà des victimes, heureusement pas des morts, contrairement à ce qu'il y a eu hier à Colmar. Donc d'abord, bien sûr, je pense aux victimes. Pour le reste, moi, je ne suis pas policier, je ne me prononcerai pas sur l'enquête, mais je pense qu'on peut partager effectivement aujourd'hui le ras-le-bol de beaucoup d'habitants qui sont vraiment victimes des nuisances que créent au quotidien ces rodéos urbains.
Et qui créent de la tension et de la violence aussi. Et qu'avez-vous fait, vous, Stéphane Gomez, alors, à Vaux-en-Velin?
Alors, sur la ville de Vaux-en-Velin, nous avons avancé sur les deux aspects, et la répression et la prévention. La répression, ça a été, depuis 2014, 1 million d'euros investi dans un système de caméras contractualisé avec la préfecture pour que la police nationale puisse en permanence accéder aux images de vidéosurveillance, les utiliser ensuite pour interpeller les auteurs de rodéos urbains. Chaque année, c'est plusieurs dizaines de véhicules qui sont interpellés sur la commune de Vaux-en-Velin. Et bien sûr, des procédures judiciaires suivent ces saisies. Ça a aussi été le choix de la prévention, en disant que, à côté de ceux qui sont dans des logiques délinquantes, voire criminelles, il y a aussi des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie du plaisir de la moto, comme certains ont le plaisir de la vitesse dans le ski, dans les jet skis. Et donc, il faut leur donner un accès aux loisirs motocross. Et donc, nous avons mis en place un système à Vaux-cross, voilà, où on prend les jeunes, naturellement pas les délinquants, mais ceux qui ont envie de prendre du plaisir sur une moto, pour les amener sur des terrains faits pour cela, avec des effets plutôt positifs, hein, puisque...
Ça a fait baisser la tension à Vaux-en-Velin. Vous en avez moins, du coup, en ville, dans les cités, dans les rues, sur les pâtés de maison, sur les trottoirs?
C'est toujours un phénomène difficile à juger, parce que ce qui est vrai en cette matière aujourd'hui peut être faux demain. Mais globalement, oui, entre les systèmes de répression et les systèmes de prévention, il me semble que le bilan est plutôt positif. En tout cas, c'est le bilan qu'on a dressé la semaine dernière, la préfecture du Rhône, qui note une baisse sensible des rodéos urbains sur notre territoire.
Je pense que c'est une bonne opération, d'autant plus que il y a un peu d'injustice entre le fait
ceux qui veulent foutre la merde, ils n'iront pas là-bas.
Non, mais il y a un peu d'injustice entre le fait que aujourd'hui on a des milliers de témoignages que ces rodéos ils se passent aussi à la campagne et que là on peut le faire tranquille puisque on est sur des routes où il y a pas
jusqu'au jour
ceux qui sont en ville sont punis. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que d'après ce que je vois autour de moi, ces rodéos, ils sont très liés aux réseaux sociaux et à toutes les images qui nous arrivent de rodéos du monde entier, de Singapour, de New York, de Chicago, de partout où on voit exactement la même chose qu'on voit en France.
Plus on en parle, plus on monte les images.
Alors le problème, c'est ça, c'est devenu un phénomène social qui va déborder très vite des quartiers, comme on le pense, qui a déjà débordé très vite des quartiers, avec quand même des ventes de bécanes. Ça rapporte beaucoup d'argent, les ventes de bécanes, etc. Et on voit que beaucoup de gamins jeunes sans casque. Donc, si jamais ils se ramassent, ils risquent les traumatismes crâniens graves. J'ai l'impression que ça devient un phénomène social incontrôlable. C'est-à-dire que même la répression fait partie du jeu qui est mise en place, parce que quand ce sont des ados, quand ce sont des adultes, ils ont peur.
Les ados, ils s'en foutent de mourir.
Hein. Non, mais ce que j'aurais rajouté, d'après ce que dit Monsieur Gomez, il y a quand même une partie de la jeunesse, c'est du loisir. Et eux, je les vois pas. Mais Monsieur Gomez, quand ceux qui sont dans une logique de délinquance, est-ce que cela vous arrivez à les localiser?
C'est comme j'ai dit.
Allez-y, Monsieur Gomez.
Un réseau de caméras qui sont, dont les images sont en permanence à disposition de la police nationale, et chaque année on a des saisies, on a des condamnations. On fait bien la part entre ceux qui ont envie d'un loisir et donc on amène vers ce loisir, y compris par rapport à ce que j'ai entendu, où on utilise justement les réseaux sociaux. Une application a été créée qui a des succès, où les jeunes justement relaient ces images positives qui font la publicité du motocross encadré sur les réseaux sociaux, avec ceux qui sont dans une logique de nuisance, qui sont dans d'autres logiques, y compris de créer des troubles.
Et Monsieur Gomez, les condamnations, elles sont de combien, puisque vous dites qu'il y a des jeunes qui ont été condamnés?
On tire la moto.
Les condamnations, elles sont dans le cadre de la loi. Hein. Moi, il y a une loi qui a été votée en 2018 et que les juges appliquent au cas par cas, mais on a eu plusieurs plusieurs mois de prison, puis bien sûr la saisie des véhicules.
Du matériel, du véhicule.
Après,
merci Stéphane.
On a des cadres différents.
Merci Stéphane Gomez, adjoint à la mairie de Vaux-en-Velin. Donc il y a deux choses, si tu veux. Il y a à la fois la répression et la manière dont tu peux déporter ces jeunes à moto et les laisser vivre leur loisir. Mais ceux qui vont sur les terrains qui sont balisés, qui sont encadrés, mais tu te souviens, pas les mêmes, Alain, que ceux qui de toute façon trouvent le frisson dans la transgression. Alain, et le défi de la police, et tu as raison, parce que c'est le défi de la police.
Quand c'est des ados.
Et puis ces manières...
Non mais attention, je fais bien la différence entre ados et adultes. C'est-à-dire que quand c'est des ados, ils n'ont d'abord pas peur de mourir, ils sont en permanence
parce qu'aujourd'hui,
en
qu'il
mort.
Vivre, c'est le défi de la police.
Et c'est le défi de la police qui les excite.
Et c'est même le défi de la cité.
Je te rappelle que le seul maire, pour l'instant, qui s'est fait agresser par des mecs qui faisaient des rodéos, c'était dans un village de France, tu t'en souviens très bien. C'était des jeunes du village qui faisaient des rodéos dans le village. Le maire est sorti pour leur dire d'arrêter. Il s'en est pris plein la gueule. Et donc, en fait, on voit bien que le phénomène, bon, c'est toujours comme d'habitude, on dit c'est un phénomène urbain, ça nous rassure de penser, mais en réalité, on voit bien que c'est un phénomène par les réseaux sociaux et par l'universalité du truc, ça va faire comme des tas de phénomènes qui sont devenus des phénomènes qu'on ne contrôle plus.
Par rapport au sujet qu'on traite là, je suis désolée. Les réseaux sociaux, je veux bien, mais là, ce qui s'est passé avec...
Ça n'a rien à voir.
Bah, tu crois que le mec, il s'est dit, je vais filmer...
Là, on est dans un cas... Non, mais là, parce qu'on parlait des rodéos.
D'accord.
Là, on est dans un cas de crime pur, d'un assassinat... Le mec a été vexé parce qu'un type lui a mal parlé, peut-être parce qu'un Afghan lui a mal parlé et qu'il est revenu l'a buté. C'est tout. C'est vraiment le le sale con dans toute sa splendeur.
On a posé la question sur les réseaux sociaux, à mort à cause d'un rodéo sauvage. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à la loi de la jungle? C'est un oui à 94% pour ceux qui suivent les grandes gueules et qui ont entendu parler de cette affaire. Dans un instant, avec Étienne, Mehdi et Elina, le monde de Macron avec cette affaire que l'on suit quand même, celle du footballeur champion du monde Benjamin Mendy, un prédateur. Il est en procès en ce moment à Chester dans le nord de l'Angleterre. Un prédateur, a dit le procureur qui instruit le procès. À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Aujourd'hui, on a un trio de GG composé de l'éducateur, anthropologue, il officie en Seine-Saint-Denis, Étienne Liebig. Nous sommes avec Mehdi Guézard, qui est chef d'entreprise, et Lida Dumont, qui est intervenante sociale. Tout à l'heure, à 10h, on vous attend à propos de la rentrée des étudiants, qui est plus chère. Ça, c'est une réalité. Coût de la vie qui est alourdi pour les étudiants, en plus avec l'inflation. Et l'UNEF fait une proposition. Régulièrement, ils demandent à ce qu'il y ait une allocation autonomie ou un revenu universel pour les étudiants. Et là, ils disent il faut pour les étudiants 1 100 € par mois. Voilà. Ça permet de vivre décemment. Et donner 1 100 €, en fait, c'est investir. Investir dans la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une bonne proposition? 32-16, et venez en parler à 10h tout à l'heure avec les GG, avec les grandes gueules. À 10h moins 20, on va y aller pour le monde de Macron.
RMC, les grandes gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
On a une histoire là qui est suivie en France par tous les passionnés de football et outre-Manche encore plus. Et le procès de Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est le champion du monde avec l'équipe de France en 2018. D'ailleurs, quand tu discutes avec les journalistes, ils disaient vraiment Mendy, c'était le plus sympa, l'un des plus abordables, celui qui mettait l'ambiance et qui venait le plus discuter avec les journalistes de ce qui se passait dans le groupe France, etc. Et visiblement, il y a eu un avant et un après Coupe du Monde. L'après Coupe du Monde entre 2018 et 2021, eh bien Benjamin Mendy s'est transformé en arrivant à Manchester City en prédateur. Prédateur, et il est jugé pour 8 viols, une tentative de viol et agression sexuelle contre 7 femmes. Prédateur, c'est ce qu'a dit le procureur. Et il y a un co-accusé qui pourrait être le rabatteur des femmes pour Benjamin Mendy. En fait, tout se passait dans sa somptueuse demeure à quelques kilomètres, avec une porte de chambre que lui seul pouvait ouvrir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois que la jeune fille arrivait dans la chambre, elle était... prisonnière en fait. Et tout le système, c'est de dire il profitait de jeunes femmes qui étaient vulnérables, effrayées,
et fascinées.
Isolées, fascinées, admiratives quoi. Donc le prédateur. Et puis ensuite, une fois que c'était consommé, une fois que c'était essoré, parce que le terme a été prononcé, bien la jeune fille était renvoyée chez elle avec de l'argent ou pas quoi.
Je crois qu'il y a, enfin quand on lit le truc, on a l'impression de lire ce qu'on a lu sur Weinstein, qu'on a lu sur PPDA, ce qu'on a lu, c'est-à-dire c'est un homme de pouvoir qui exerce ouais. automatiquement une forme d'admiration, enfin pour des jeunes filles, qui profite de sa place, qui est en plus un rabatteur et qui lui en plus circonstance aggravante a mis en place un système dans son château là pour que les jeunes filles ne puissent pas s'en aller au moment où elles
s'aperçoivent que ça va trop loin. Ouvrir la porte, ouais.
Donc oui, on est devant un prédateur total, un violeur complet. J'espère qu'il risque la perpétuité. Là. Bon, ça n'ira pas jusqu'à la perpète, mais je pense que effectivement, même s'il a d'excellents avocats, ça va être très très dur pour lui. Et je pense qu'il va prendre le maximum, et c'est mérité, parce que je trouve que vraiment tous ces hommes qui ont profité de leur pouvoir, parce que soit ils avaient du blé, soit ils avaient une renommée, comme Weinstein qui peut faire une carrière ou défaire une carrière, ou PPDA qui peut faire une carrière de journaliste ou pas. Tous ces gens doivent disparaître doivent disparaître. Et pour une fois, ça n'arrive pas quand le mec a 70 ans. Eh ben, je suis plutôt satisfait que ça arrive maintenant, ça n'empêchera de nuire.
Elina. Oui, moi je voudrais dire, malheureusement, ça ne date pas d'un siècle passé.
Oui, enfin, je m'entends.
Je vais te dire, c'est un pervers, enfin, c'est tout ce que tu veux. Écoutez, Vous connaissez tous ma vie ici. Mmh. Moi, déjà à mon époque, dès que les gens ont du pouvoir sur des femmes fragiles,
bien sûr.
Vous êtes obligés. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez tellement peu de moyens pour vous défendre. Et de toute façon, si vous allez vous plaindre, on vous croira pas, parce que peut-être que la fille, elle a des problèmes d'alcoolisme. Parce que là, ils disent bien qu'ils prenaient que des femmes fragiles.
Mais bien sûr.
Ça, faut pas oublier.
Et,
hein.
Et tu vas voir que pendant le procès, ça va leur revenir dans la gueule. Oui, mais mademoiselle, je crois d'ailleurs que vous vous prostituez un petit peu, etc., etc.
Oui, tu vas voir, tu vas voir.
Mais on connaît ça par cœur.
Donc, il y a une partie, c'est de votre faute.
Mais
quoi,
c'est écrit.
Attends, Alain, je voudrais te dire un truc. Je connais des femmes de ménage qui me disent, là, on est en 2022, ils m'ont dit, qui me disent, oh, qu'est-ce que j'en ai marre de mon client, là. Enfin, mon patron. Chaque fois, il me fait des avances et tout. Et on est en 2022. Et ces femmes de ménage que je connais, mais elles, pour rien au monde, elles ont envie de perdre leur boulot.
Ouais. Donc elles n'osent pas porter plainte. Depuis l'affaire Strauss-Kahn, et il y avait une omerta dans le milieu du football aussi, avec toutes ces soirées, du sport qui sont organisées avec beaucoup d'argent qui coule à flot dans des boîtes, dans des soirées.
Il y a 749 affaires aujourd'hui, 749 procès dans le sport. Alors plutôt les sports individuels où il y a un coach et une jeune fille patin à glace, équitation, etc. Donc plutôt dans ces sports-là que dans les sports collectifs. Mais j'imagine que dans les sports collectifs, c'est
non mais pour moi. Mais en plus, lui, il avait carrément un rabatteur.
Bah oui. Parce que souvent aussi aux États-Unis, il y a une transaction qui est faite et les poursuites aux États-Unis, ça s'est vu avec des stars du basket, notamment ou du football américain.
Tu plaides coupable, tu payes 800 000 $
et même plus, des fois des millions de dollars, mais et les poursuites s'arrêtent quoi. Mehdi Ghezzar.
Moi, franchement, je suis choqué par cette histoire, parce que Benjamin Mendy, c'était quand même un joueur qui était vraiment
exemplaire.
Bah, pas exemplaire, mais c'était le bon fêtard qui faisait rigoler tout le monde dans le groupe France. Il était passé par Marseille, ensuite Monaco. Il avait toujours des bons trucs sur lui. Donc je suis tombé de haut quand j'ai lu ça la première fois, puisque ça fait plus de 6 mois. Je crois qu'il est même resté en prison plusieurs mois.
Oui.
Ensuite, il a été mis en liberté conditionnelle. Mais c'est quand tu lis, comme moi j'ai lu hier dans le Parisien, dans l'équipe, je crois, j'ai lu des extraits dans l'équipe. Si c'est avéré, parce que bon, c'est pour l'instant.
Ah, mais c'est terrifiant, ouais.
C'est horrible. Mais le type, c'est un sadique narcissique qui s'aime. Il dit des choses à ses victimes de lui dire pendant les actes. Le type, c'est un fou. Le type, il les bloque, il les maintient en détention. Il leur dit, ouais, vous êtes détenus, vous êtes mes proies. C'est incroyable. Enfin, il a pas, honnêtement, avec le pognon qui se fait, avec la vie qu'il a, avec, est-ce qu'il a besoin d'avoir des problèmes comme ça, quoi? Non, mais tu m'as pas compris. Je suis désolé, mais la prostitution est le plus vieux métier du monde.
Non, mais attends,
excuse-moi. Je vais pas t'apprendre la vie, Étienne. T'as envie de t'éclater, c'est pas ça qui manque. Tu payes.
Il va dans une boîte échangée.
Merci. Tu vas, tu prends des filles, tu payes un service, entre guillemets, à un copain à toi qui te les ramène chez toi, tu les bloques dans des chambres. Le type, il a un problème psychologique.
Je pense que c'est un problème psychologique. La domination, c'est pour ça que les études, notamment menées par les féministes sur ces questions, qui sont très larges, dépassent complètement la question de la sexualité. C'est-à-dire, ça dépasse le désir sexuel et ça dépasse l'envie d'avoir.
C'est un problème psychologique.
C'est un problème de domination. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas tellement le fait d'avoir une relation sexuelle qui intéresse ces personnes. Ce qui les intéresse, c'est d'exercer une forme de domination sur quelqu'un. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose.
Et surtout qu'il ne se passe rien derrière.
Mais bien sûr.
C'est surtout ça. Pendant trois ans, il y a eu cette espèce d'impunité, le fait d'avoir
une forme de domination. Ouais. Par exemple, le patron dont tu parles avec la femme de ménage, il y a bien sûr du désir, mais il y a surtout le fait que comment tu peux me résister alors que je paye et que tu es sous ma domination.
Au temps des bourgeois, c'était déjà comme ça. Ça a toujours été
comme ça. C'est pas nouveau.
Mais j'espère qu'on va pas trouver lui. On va pas lui trouver l'excuse. Le pauvre. Après, il avait le gros melon. Il a perdu la tête. Non. Peut-être qu'avant, il avait déjà des soucis sexuels. On n'en sait rien. Sauf qu'il n'était pas passé à ce stade-là. On ne sait pas comment il était avant.
Mais attends, parce que ça risque de faire un peu comme Weinstein ou les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on commence à enquêter sur le personnage, on s'aperçoit que ça date pas de là, et puis qu'on va remonter
Là, c'est sur 3 ans, c'est 2018-2021. Dans le monde de Macron, après Menton, Roquebrune, Cap-Martin et Cannes-sur-Mer, on a une ville encore, Saint-Laurent-du-Var, c'est à côté de Nice, qui a décidé de couper l'eau des douches des plages à partir d'aujourd'hui. Motif invoqué encore, c'est la sécheresse, Mehdi.
C'est fatigant, c'est épuisant. En fait, ils essaient de faire du buzz maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un concours entre les maires pour faire du buzz et faire parler de soi dans les journaux, quoi. C'est chiant, quoi. Maintenant, tu sais, quand tu sors de plage et que tu as envie de te nettoyer les pieds, que tu es rempli de sable avant d'aller dans ta voiture ou un truc comme ça, même si ça, tu te douches, je te dis pas de mettre des hectolitres et des hectolitres à disposition, mais tu peux faire quelque chose où, qui fait que tu peux te nettoyer rapidement avant de monter dans ta bagnole, même si ça commence à enlever, enfin, c'est lourd, quoi. Tout le monde est dans l'écologie punitive à outrance. Non, attention, c'est la sécheresse, c'est la truc. Et après, ils vont se taper des, enfin, franchement, pour moi, next, quoi. C'est chiant, quoi.
Non, ce que je voulais dire, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il est moins pire que celui qui a coupé les robinets à tout le monde. Hein.
Ouais, non, mais d'accord. Non,
mais bon, moi je me dis bon.
Sur des plages, Lina, on va.
C'est bien. Je sais ce que c'est d'aller sur une plage avec du sable. Mais je me dis bon, au pire, ils doucheront chez eux, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais, mais bon, je veux dire, c'est pas.
Mais tu sais, c'est quand tu te douches en sortant de la plage. 80% des fois, c'est pour pas salir ta voiture. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais oui, mais
moi,
toi, tu t'en fous, mais. Mais pas moi. Enfin, voilà. Il y a des gens, excuse-moi.
C'est aussi pour enlever, Etienne, c'est moi, pour enlever voilà. C'est pour enlever
le sable sur soi. Voilà, le sable.
Parce que ça crée.
Ça peut irriter.
C'est aussi pour les enfants aussi.
Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait une résistance. Moi, je l'entends et je pense qu'il faut que. On l'entend tous qu'il y a des résistances parce que voilà il y a des gens qui sont accrochés à ce confort là et moi je l'entends complètement. Personnellement je m'en fous, mais je comprends qu'il y a des gens qui ne supportent pas de pas pouvoir se doucher, de pas laisser la voiture allumée, de pas etc. C'est un changement, oui, je le répète, après... parce que à chaque fois oui, l'écologie est punitive, elle sera punitive parce qu'elle sera toujours une remise en cause d'une certaine forme de nos conforts, et c'est tout à fait normal, on a acquis un certain confort, aujourd'hui on est dans un virage, ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans, peut-être ta génération, peut-être auront du mal à s'y faire, mais heureusement, dites-vous bien que les enfants qui vont venir derrière vous, ils sont déjà acquis à cette cause, et que ce ne sera pas un problème, et qu'il n'y aura plus de douche sur les plages, et qu'ils n'en chialeront pas.
Mais tu sais, Etienne, rien n'empêche aux parents, puisque vous parlez des enfants, d'apporter une bouteille d'eau et puis après les rincer. Enfin, moi, ça me viendrait à l'idée, quoi.
Oui,
sachant qu'il n'y aura plus de.
On prendra d'autres habitudes, c'est pas grave.
Ouais, je pense.
On rentrera de la plage à pied.
Puis peut-être après nos vos enfants, parce que moi, j'en ai pas, eh ben, dans 30 ans, ils vous remercieront et diront ben, heureusement que nos anciens, à un moment donné, ont réagi.
Ils réagissent tard. Hein.
Ouais, mais à côté de ça, c'est comme les communes aujourd'hui qui ont coupé les petites fontaines municipales, tu sais. Bon, sauf que c'est vrai, il y a des fontaines du municipal.
Alors, à Paris,
ça,
on a plus.
Oui, mais ça,
pour les sans-abri, c'est très très grave.
Bah,
très
oui, parce grave, que, mais pour les Roms.
Parce que l'été.
Ou pour les Roms, oui.
Parce que l'été, tu pouvais, là, surtout quand il fait chaud, tu te rafraîchissais. Certaines des fontaines municipales, certes, c'était l'eau potable, donc tu visitais les villages. On voyait même les oiseaux qui venaient se poser près des fontaines municipales et qui faisaient la béquille et qui se rafraîchissaient. Ouais. Donc je me dis oui.
Non mais ceci dit, Alain, c'est une tradition. Alors là, c'est très compliqué cette histoire. Par exemple, à Rome, il y a 400 fontaines qui sont ouvertes tout le temps. On voit des enfants dans les fontaines. Personne ne dit rien, tout le monde trouve que c'est tout à fait normal parce que c'est une tradition romaine. En France, ça fait très longtemps qu'on a fermé les fontaines. Dans mon département, par exemple, toutes les fontaines, et il y en avait quelques-unes, ont été fermées parce qu'on avait peur que des gitans, des Roms ou des Manouches s'installent et aillent chercher à la source. Ce qui fait que quand t'as une caravane et que t'installes quelque part, faut que tu payes quelqu'un pour aller chercher de l'eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un moyen de gagner ses sous, c'est-à-dire tu prends de l'argent à des voyageurs et tu leur dis, bah oui, vous pouvez vous servir à mon robinet, sauf que tu fais payer ton eau à peu près 200 fois plus cher que tu la payes toi-même. Donc, ça a été une volonté des maires pour empêcher les gitans de s'installer.
Parce que les riverains se plaignent.
Ils se plaignent peut-être, mais bon, il faut que tout le monde ait le droit de boire, il faut que les enfants...
Puisque Mehdi nous disait qu'il en avait un peu assez de cette écologie punitive, Bah, tout à l'heure, à 11h, sera notre GG 7 et match avec ce qui se passe à Nancy, avec cet arrêté de 1963 qui interdit aux automobilistes de laisser tourner le moteur de leur véhicule lorsqu'il est en stationnement à l'arrêt. Eh bien, la mairie de Nancy a réactivé cet arrêté en disant « Vous laissez tourner le moteur, là, alors que c'est la sécheresse et que c'est de la pollution, eh bien, c'est une amende de 135 €. Est-ce que c'est utile ou pas, pour ou contre ?» GG7 et match tout à l'heure à propos de cette mesure à Nancy. Avec vous, bien sûr, au 32-16. Dans un instant, les étudiants, la rentrée. L'UNEF souhaite une allocation de 1 100 € par mois. C'est un investissement pour les étudiants. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.